Le vide m'intéresse en général beaucoup, déjà pour des raisons physiques. Je trouve que c'est des expériences, quand on fait les expériences du vide, qui sont... on apprend beaucoup de choses quand on se confronte au vide, mais aussi dans nos champs de recherche, le vide, souvent, c'est de l'impensé. Et dans le cas de ce colloque, entre écrit et rebelle, l'impensé que je perçois dans cet espace vide, c'est celui de l'expérience. De l'expérience de la rébellion, de l'expérience de l'écriture et de l'expérience de l'écriture ou de l'écrit rebelle. Et cette expérience, je vais l'appréhender de deux façons aujourd'hui, comme événement, donc ce qui advient, ce qui est vécu, et là je vais partir de ce que j'ai vécu ou ce que nous avons vécu, ce que nous avons pu vivre comme rébellion et comme écriture, mais aussi je vais l'appréhender comme un phénomène avec une sorte de distance, donc l'écriture, la rébellion, comme ce qui est perçu, ce qui est décrit, ce qui peut être observé. Donc en interrogeant cet espace blanc, cet espace vide entre écrit et rebelle, je vous propose donc un retour sur expérience et un retour à l'expérience. En d'autres termes, je vais m'essayer à une phénoménologie de l'écriture rebelle en m'inspirant de la phénoménologie de l'esprit de Hegel et de la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, mais en beaucoup, beaucoup plus léger et beaucoup plus ludique. Mais j'étais heureuse que ces deux livres existent pour me dire qu'on a le droit de faire de la phénoménologie du corps, de l'esprit, de l'écriture, de la rébellion. Dans cet espace, entre écrit et rebelle, je ne vois pas de lien évident. Je n'entends pas de silence insondable non plus. Je pressens des expériences individuelles. Parce que je crois qu'être rebelle, c'est dire je. Ce je n'est pas nécessairement un ego. Il peut l'être, évidemment, parce que l'ego est notre expérience première du soi. Mais lorsque le rebelle dit je, lorsqu'il écrit je crois que ça me semble être de façon réflexive, plus réflexive qu'égocentrée. Je parlerai donc plus volontiers, plutôt que d'ego, d'ipsée, c'est-à-dire d'une réflexion, même d'un reflet, d'un soi comme conscience singulière qui devient universelle. Autrement dit, le jeu de dépente est aussi le mien, le jeu de dépente est aussi le vôtre, parce que son expérience de la rébellion, c'est une expérience commune à beaucoup d'entre nous. Ce qui est moins commun, c'est l'écriture de la rébellion. Donc pour moi, cet espace qu'il y a entre écrit et rebelle, c'est un vrai espace. C'est peut-être un mur, c'est peut-être une séparation, c'est peut-être un vide. Voici donc les questions que je me pose devant vous aujourd'hui. Peut-on écrire et se rebeller en même temps? Peut-on écrire afin de se rebeller? Peut-on écrire au lieu de se rebeller? Et enfin, y a-t-il un temps, un âge pour se rebeller? Autrement dit, que deviennent les rebelles en vieillissant? Toutes ces questions liées à l'expérience rebelle me conduiront à me poser la question de la forme de l'art rebelle. Parce que la rébellion, dans ma conception, va de l'antinomie à l'anomie, de l'anticonformisme à l'invention de formes nouvelles. C'est peut-être la forme qui fait de l'écrit un écrit rebelle. Mais j'irai encore plus loin, et sous forme un peu de provocation, dans cette formulation de mes hypothèses de départ. Peut-être n'y a-t-il pas d'écrit rebelle, mais seulement de l'écriture rebelle. Parce que l'écrit, dans sa forme recevable, lisible, définitive, est forcément assagi, forcément figé. Pour jouer un peu avec les mots, je dirais que la rébellion est un cri. Écrire le cri, c'est en faire autre chose. Un objet livre, et les livres, ils sont sages, ils restent à leur place, on les met derrière des grillages, ils ne crient pas. En tout cas, bon. Pour répondre à ces questions autour de l'expérience rebelle et de son écriture, je vais me référer aujourd'hui aux œuvres que j'aime, à des œuvres en langue française, arabe et anglaise, parce que multiplier les langues, c'est aussi pour moi une façon de faire de la phénoménologie en me détachant des mots, parce qu'on pense avec les mots, et donc quand on change de langue, on pense autrement. Donc je parlerai un petit peu en d'autres langues. Et comme j'essaie donc de saisir quelque chose qui est hors les mots, hors concept, je vais mobiliser donc mes autres langues pour éclairer cet espace vide entre écrit et rebelle. Je vais essayer de faire tout ça en trois temps. Je vais d'abord me demander à quel moment l'espace entre écrit et rebelle disparaît, c'est-à-dire à quel moment est-ce que l'écriture et la rébellion coïncident. Et je me demanderai donc dans ce même temps quelle forme prend cette coïncidence entre écriture et rébellion. Je vais ensuite me demander quel sens a l'écriture rebelle et ce qu'elle peut espérer. Et je ferai enfin des liens entre ces questions de temps, de forme, de sens avec le livre de Gazelle Théorie qui me servira d'objet d'étude phénoménologique. Donc premier point pour condenser, quand, quoi. Donc qu'est-ce qu'on écrit, quand est-ce qu'on écrit, quand est-ce qu'on se rebelle et quand est-ce que les deux espaces, quand est-ce que l'espace disparaît. Quand je me suis posé la question de quand écriture et rébellion se rencontrent, me sont revenues deux formules. D'abord, celle de Descartes, discours de la méthode, je pense donc je suis. Je suis tentée de dire, dans le cadre de ce colloque, pour pasticher Descartes, je vis donc je suis, je me rebelle donc je suis, j'écris donc je suis. Ça voudrait dire qu'il y a quand même une rencontre entre rébellion, écriture et existence. La deuxième formule est de Camus, elle est extraite de L'homme révolté. L'art et la révolte ne mourront qu'avec le dernier homme. J'ai envie de pasticher Camus dans le cadre de ce colloque en disant « La créativité et la rébellion ne mourront qu'avec la dernière femme ». Bref, il y aurait une équation entre la vie, la pensée, l'art et la rébellion. Donc théoriquement, on devrait pouvoir écrire et se rebeller. Mais pour moi, ça, c'est en théorie. Parce que dans la vraie vie, la rébellion et l'écriture me semblent s'exclure. L'espace vide entre écrit et rebelle, je le vis plutôt comme une séparation. C'est du moins ce que me suggère mon intuition, mon expérience, et c'est ce que je vais essayer de montrer par quelques arguments. Donc, premier point de ce premier temps, écriture et rébellion sont exclusives. Tout d'abord, les rebelles se rebellent. Et ça prend toute leur énergie, ils ne peuvent pas écrire en même temps, ou elles ne peuvent pas écrire en même temps. D'ailleurs, les rebelles sont arrêtés, ils fuient, ils meurent, ils ne font pas œuvre, ce n'est pas leur élan premier. Deuxième point, pour écrire, il faut un lieu, il faut du temps, il faut avoir mangé, il faut avoir dormi, il faut quelque sorte un cadre de vie, alors je ne vais pas lancer le mot tout de suite, mais peut-être que si, bourgeoise, il y a un rapport entre l'écriture et un mode de vie bourgeois. Troisième point, pour être publié, c'est-à-dire pour être entendu en tant qu'écrivain rebelle, il faut utiliser des machines, il faut des imprimeries. Il y a un rapport, à mon avis, entre la littérature et la société industrielle. Or, les rebelles sont assez souvent contre la société industrielle, peuvent l'être. Autre argument, pour être diffusé en tant qu'écrivain rebelle, il faut un réseau, il faut de l'argent, il faut courtiser le pouvoir, des pratiques qui ne sont pas celles des rebelles. Il y a un rapport entre la littérature diffusée et le capitalisme. Et dernier point, je ne suis pas sûre que le livre soit la forme aujourd'hui la plus adéquate de la rébellion. Pourtant, j'en ai écrit un, mais j'ai l'impression d'appartenir à l'âge d'avant, en quelque sorte. Les rébellions que j'observe le plus souvent aujourd'hui sont des rébellions écologiques, et le livre n'est pas un outil écologique. Donc les rebelles d'aujourd'hui, les rebelles de demain, je ne suis pas sûre qu'ils utilisent le livre, qu'ils publient des livres pour écrire leur rébellion. Donc pour résumer, dans la rébellion, il y a une urgence, il y a une survie, et ce n'est pas nécessairement un moment de vie ou de mise en œuvre. Ça influe, selon moi, sur la forme des écrits rebelles que nous pouvons rencontrer, lire découvrir. Pour moi, les écrits rebelles ou les plus rebelles, ce sont les tracts, qui sont souvent anonymes. Ce sont les manifestes. Alors, celui que j'étudie beaucoup depuis quelques années, c'est celui de Hakim Bey, le manifeste Taz, qui circule de façon souterraine, que les étudiants, par exemple, utilisent beaucoup, qu'on retrouve dans les manifestations sans qu'il soit nécessairement, disons, vendu en librairie. Ce sont les slogans, ce sont les poèmes, Alors, en guise de poème, il y a par exemple un vers, une phrase d'un poète tunisien qui s'appelle Aboulkassem Chebbi, qui n'est pas encore très connu en France, qui est du début du XXe siècle. Et un vers de Chebbi circule depuis un siècle dans le monde arabe et on l'a entendu dans toutes les manifestations pendant les printemps arabes. Donc un seul vers qui, pour moi, est une sorte de condensé d'écrits rebelles. Je peux vous le dire. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. Si un jour le peuple veut la vie, le destin ne peut que s'incliner devant la volonté du peuple. Et on l'a entendu en Syrie, enfin on l'entend tout le temps, ce vers-là. Et bon, la rébellion, l'écriture, la coïncidence entre les deux, pour moi, est par exemple dans ce vers. Un autre exemple d'écrit rebelle à la forme particulière, ce sont les graphes. Alors là, on peut penser à Basquiat, le graphe qui représente, qui signifie sa rébellion. Et puis, la forme aussi de la conférence, celle de Thoreau, la vie sans principe. Je citerai simplement ça rapidement. Donc, les écrits rebelles, ce sont plutôt des écrits courts, des écrits sans signature parfois, des écrits qui circulent en dehors de la société peut-être capitaliste, en dehors d'une vie bourgeoise. On trouve aussi de la rébellion, de l'écriture rebelle dans la chanson, dans le rap. Le morceau antisocial a une grande postérité, enfin, est très connu aussi des jeunes et continue à beaucoup circuler. J'entends aussi beaucoup Lettre à la République de Kerry James, qui est un morceau qui circule aussi énormément. Et Kerry James qui lui-même répond à Boris Vian, donc ce ne sont pas des écritures qui naissent de rien, mais c'est quand même des textes qui ont une forme particulière et inédite selon moi. Je pense aussi aux contes. Alors, on a, je pense à une féministe tunisienne qui s'appelle Olfa Youssef, qui a réécrit Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Le Petit Poucé, dans une perspective de rébellion féministe. Donc, elle en a fait des contes de la désobéissance, mais ce sont finalement d'abord des contes de la désobéissance. Blanche-Neige désobéit, La Belle au Bois dormant aussi, mais elle extrapole ça, et ce sont des contes qu'on raconte, qu'on peut entendre dans sa version. Et je pense aussi, comme forme particulière de l'écriture rebelle, au poème oral, et non pas écrit, celui que pratique par exemple Mahmoud Darwish. Pour Mahmoud Darwish, le poème doit être une valise, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir le transporter où que l'on aille, et non pas une maison, voilà, comme peut l'être la poésie occidentale peut-être. Donc ces écrits rebelles me semblent très éloignés du genre bourgeois par excellence qui est le roman. Donc je me suis demandé s'il existait des romans rebelles, si moi j'avais déjà lu un roman comme, et en le considérant comme un roman rebelle. Me sont venus en tête Sur la route de Kerouac, mais je ne suis pas sûre que ce soit un roman. Et puis il n'a pas la forme d'un roman, c'est un rouleau, enfin c'est pas l'objet livre. Me sont venus, alors Vernon Subutex, bien sûr, mais on pourra revenir sur la façon dont ça a été écrit et vécu par Virginie Despentes. Et puis, je voudrais aussi citer un autre roman qu'on a pu considérer comme rebelle dans le monde arabe, qui est celui de Leïla Baralbaki, Ana Ahya, qui a été traduit par Je vis, c'est plutôt Je suis vivante, mais je vis. Mais ça n'est pas tout à fait un roman, c'est un peu comme Sur la route, c'est publié en 1958 et ce sont les déambulations d'une Libanaise à Beyrouth. Donc c'est pas tout à fait le roman au sens européen, occidental et bourgeois du terme. Donc finalement, peut-être que le fait que la rébellion et l'écriture ne puissent pas produire d'objets livres fait que l'art rebelle par excellence serait le tout-art. C'est-à-dire un art un peu total, mais aussi un peu informe. Le tout-art, enfin, j'ai l'impression que le tout-art est peut-être l'art le plus rebelle qui puisse être. En effet, Basquiat, par exemple, n'est pas seulement un peintre, il est aussi musicien, il est aussi chanteur. Et quand il peint, il l'écrit. Ça m'intéresse aussi beaucoup de voir comment l'art rebelle est un art illisible, un art qui, de prime abord, ne donne pas son sens. Et pourtant, les mots sont très importants dans l'art de Basquiat. quand il graphe, donc par exemple dans le film Downtown 81, il graphe une phrase en anglais. Les mots sont compréhensibles, mais la phrase en elle-même l'est assez peu. Donc j'ai essayé de la traduire. Ça donnerait « Toute la file d'attente, des uniformes se courbent, comme ça, avec les gros sous, tout écrasé, dans ses pieds. » Le sens n'est pas donné. Il y a peut-être un lien entre l'art rebelle et le non-sens premier de cet art. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien entre non-sens et rébellion ? J'ai essayé de creuser cette question-là. Et je me suis souvenu, j'ai lu aussi dans l'argumentaire du colloque, que rébellion venait de... qu'il y avait une sorte de répétition dans la rébellion. C'était repartir en guerre, n'est-ce pas ? Se rebeller, repartir en guerre. Je me suis demandé quelle guerre on avait perdue pour devoir partir à chaque génération en guerre à 15 ans, et puis repartir en guerre à 40 ans, et puis peut-être encore à 70 ans. Donc, quelles sont les guerres que nous avons perdues et qui donnent en quelque sorte une impression de non-sens dans l'art rebelle ? Je me suis aussi souvenue que avant la rébellion, il y a une grande solitude. Et qu'après la rébellion, il y a aussi une grande solitude. C'est-à-dire que la rébellion, c'est un moment de collectif, un moment de solidarité, mais qu'avant, après, c'est aussi la solitude. Et on a un peu vécu ça en Tunisie, par exemple. La solitude post-révolutionnaire est une grande solitude. L'inespoir, on va dire. L'inespoir post-révolutionnaire est fait de solitude. Donc ça donne aussi du non-sens. J'étais seule, je me suis rebellée, j'ai cru être plusieurs, et je me retrouve seule. Il y a aussi un lien, à mon avis, entre la rébellion et la tentation de la violence. Et parfois, l'écriture ne suffit pas à exprimer la violence. Alors, l'exemple qui est aussi très populaire parmi les étudiants, parmi les jeunes d'aujourd'hui, est celui de Yuna Bomber, de Kaczynski. Je ne sais pas si cet exemple vous dit quelque chose, pas du tout. Ouais. Yuna Bomber est un étudiant, Kaczynski, donc étudiant brillantissime de Harvard, qui a des choses à dire, donc il y a sans doute aussi des problèmes par ailleurs, et ne pouvant les dire, il envoie une bombe à l'université, d'où le nom Yuna Bomber, parce qu'il ne peut pas dire ce qu'il a à dire. Et il y a une série Netflix. Donc ce personnage, il est emprisonné aujourd'hui et il est très populaire parmi les jeunes. C'est une figure de la rébellion aujourd'hui, Yuna Bomber. Donc il y a aussi des moments où l'écrit, où la rébellion n'arrive pas à se transformer en écriture. Et pour moi, ça, c'est du non-sens. C'est qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se dire. Et dernier exemple, pour illustrer ce non-sens de la rébellion qui devient écriture ou qui devient art, j'ai cherché récemment la tombe de Basquiat à New York. En ce moment, à New York, il y a une grande exposition sur Basquiat à Manhattan. On a reconstitué sa chambre, un mythe, le mythe Basquiat. Et la tombe de Basquiat est introuvable et elle n'est pas indiquée. Il faut trouver le cimetière est pas facile à Brooklyn. Et il a une toute petite tombe sur une rangée où il n'y a que des mafiosi de Brooklyn. Et je pense que peut-être que c'est que Andy Warhol a dû peut-être acheter ça aux mafiosi, c'est possible. Et sur la tombe, il n'y a rien. Il y a Jean-Michel Basquiat, artiste, et ce contraste entre le mythe de l'artiste rebelle qu'est Basquiat et la réalité de ce qu'il en reste, pour moi, ça participe aussi à ce non-sens. Alors, tout ça voudrait dire que, en devenant art, en devenant écriture, la rébellion perdrait quelque chose. Sans doute que la rébellion est un jaillissement, un débordement. C'est un moment de solidarité ponctuelle, peut-être illusoire. Et lorsque ce jaillissement se solidifie, qu'il se fige, peut-être qu'il annule sa force. Donc peut-être qu'on ne peut pas faire de l'art qui resterait rebelle tout en devenant art. Alors je vais me demander maintenant pourquoi quand même faire de l'art rebelle, puisque ça n'a pas de sens et puisque c'est trahir la force de la rébellion. Alors sans doute... l'art rebelle existe parce que c'est un élan vital. On a parlé du corps tout à l'heure. Je crois que on se rebelle. Alors on peut se rebeller comme des intellectuels, sans doute, mais je pense qu'on se rebelle comme des animaux. Je pense qu'il y a une forme d'animalité dans la rébellion. Et cette animalité-là, pour ma part, je la trouve chez Rimbaud. Et j'aime chez Rimbaud le mouvement qu'on trouve d'ailleurs aussi chez Despentes, c'est que Rimbaud finit par représenter tous les opprimés. Il n'est plus que, il n'est pas seulement de Charleville, où il devient représentant de tous les opprimés. Donc il y a un rapport entre rébellion et Rimbaud, et la jeunesse, et Rimbaud en est pour moi la figure. Que deviennent les rebelles une fois qu'ils vieillissent ? Rimbaud a vieilli un peu, il a cessé d'écrire, donc ça aussi ça m'interroge. Une fois que l'écriture et la rébellion se sont rencontrées, ça retombe. Il n'a pas beaucoup vieilli, mais il a un petit peu vieilli, et on en sait assez peu sur ce qu'il pensait après l'écriture. J'ai quand même en tête des figures de vieux ou de vieilles rebelles, ou de rebelles qui ont vieilli et qui ont continué à l'être. Alors je vais lancer ici le nom de Patti Smith. Oui ? Qu'on peut continuer à aller... comment dire, on peut continuer à se nourrir de cet élan de rébellion qui est la sienne, ce qu'elle donne en concert, ce qu'elle donne, et c'est toujours cette même animalité de vie, de survie, de vie meilleure. Je pense à Sardewi, donc dont Evelyne a dit un mot tout à l'heure, que j'ai un peu traduite. Elle a beaucoup été traduite en anglais et je commence à la traduire en français. Nawal Sardewi, qui est donc égyptienne, qui est décédée il y a 3 ans. Elle a un parcours qui donne envie de vieillir, parce que plus elle vieillit, plus elle se rebelle. Plus elle vieillit, plus elle est libre. C'est une femme qui est née dans un carcan, même physiquement, et qui, en vieillissant, a cassé le carcan. Et elle est une figure de rebelle qui continue. Alors je pense aussi à d'autres figures, Bourdieu, Cioran, Katebiassine, Bob Dylan, dans une certaine mesure, et Gaston Miron. Non, Bob Dylan, non, d'accord, alors on retire. J'ai dit non, ok. Ça me va, Nadia, on enlève Bob Dylan. Et d'ailleurs, tu me donnes un argument pour tout à l'heure. Donc oui, pas de Bob Dylan. Et Gaston Miron. Gaston Miron, donc le poète québécois, qui avait cette rébellion chevillée au corps et à la langue et qui l'a gardée toute sa vie. Donc, première question, que deviennent les rebelles quand ils vieillissent ? Ils peuvent continuer à être des rebelles. Que deviennent les rebelles lorsqu'ils s'embourgeoisent ? Alors, c'est une vraie question si on considère la rébellion comme une résistance à la littérature bourgeoise ou à la façon de vivre bourgeoise. Alors, je n'ai pas de réponse à cette question-là. C'est un peu délicat, en plus, de la poser ici et que je la pose et que nous nous la posions. Parce que peut-être que l'art rebelle devient un sujet d'études universitaires ou devient un sujet de colloque quand ils sont bourgeoises. Mais il faudra peut-être revenir à la question de la bourgeoisie. Là, je fais une différence entre la bourgeoisie, qui est un état social, et le bourgeoisisme, qui serait peut-être un état moral. Enfin, on y reviendra si cela vous intéresse. Il existe tout de même des romans, puisque c'est la forme bourgeoise par excellence. Il existe, selon moi, des romans qui expriment un mal-être bourgeois. Je ne nie pas ça. Pour moi, ce ne sont pas des romans rebelles, mais il existe donc Emma Bovary, oui, et il existe aussi La Nausée de Sartre, qui exprime un mal-être bourgeois. La Nausée de Sartre, qui faisait partie, en 1950, de la liste du Grand Prix des meilleurs romans du demi-siècle. Cette distinction, et Bob Dylan d'ailleurs, prix Nobel de littérature, me fait me poser la question de l'art rebelle et de la reconnaissance. Que devient l'art rebelle lorsqu'on obtient la reconnaissance ? Et je me souviens d'une interview de Kerouac que vous pouvez voir sur YouTube, qui est extraordinaire parce que Kerouac, dans cette interview, parle en français. Avec un axe, avec des intonations, oui, québécoises, c'est ça. On découvre un autre Kerouac, et donc à ce Kerouac-là, le journaliste demande ce qu'il pense des grands écrivains de son temps. Et Kerouac dit que c'est très simple, les grands écrivains n'obtiennent pas de prix littéraire. que pour lui, c'est ça la marque du grand écrivain, que lui d'ailleurs pourrait avoir le prix Nobel. C'est très drôle, il dit « moi je pourrais avoir le prix Nobel, je ne suis pas un grand écrivain ». Mais Genet, Céline, Borose n'auront pas de prix littéraire. Donc que devient l'art rebelle lorsqu'il est reconnu? Peut-il être reconnu? Est-ce qu'il existe une littérature anti-bourgeoise? Pour moi, là, on arrive à une sorte de limite. L'art rebelle, s'il est reconnu par le système, par l'ordre, par l'institution, court un risque énorme d'anéantissement. Alors, malgré tout ça, ça a quand même du sens, mais ça a du sens peut-être donc de faire de l'art rebelle, de se rebeller évidemment, mais de faire de l'art rebelle et d'y croire, mais ça a du sens peut-être au sens physique du terme, plus qu'au sens symbolique du terme. Ça a du sens parce que l'art rebelle, c'est de l'énergie, ça donne une direction. Il y a une forme de relais à chaque génération. J'ai aussi l'image du flambeau, d'un feu qu'on se passerait d'une génération à une autre. Mais j'ai aussi l'image du ricochet, c'est-à-dire d'une pierre qui finirait par retomber. Mais je crois qu'il y a quand même du sens dans l'art rebelle, dans le sens où ça donne de l'énergie, ça donne une direction. J'ai aussi l'image du débordement dans l'art rebelle. C'est peut-être un art malgré soi. Ce n'est peut-être pas un art qui se veut art d'abord. Et puis j'ai aussi la sensation physique d'une impulsion. Et c'est ce que j'ai ressenti en lisant King Kong Theory. Je ne suis pas la seule évidemment, mais ça a été une impulsion, ça a été un électrochoc, mais au sens physique du terme. C'est-à-dire qu'elle parle du corps, elle parle à nos corps, et ça produit aussi quelque chose dans le corps. Il y a aussi, et là je voudrais juste dire un mot, de la force d'impulsion que peuvent donner des écrits qui ne sont pas des écrits littéraires. Virginie Despentes appartient à la littérature et elle nous fait écrire, elle nous fait penser. Mais je pense à quelqu'un comme Gloria Steinem, qui ne fait pas de littérature et qui pourtant pousse des femmes ou donne à des femmes l'élan d'écrire et de s'accomplir. Alors j'en arrive à Gazelle Theory, qui est une sorte de ricochet. Donc si la force première, c'est King Kong Theory, et la force s'amenuise petit à petit, mais on arrive, dans mon cas, à Gazelle Theory. Alors dans ce livre, dont on parlera peut-être tout à l'heure avec vos questions, parce que c'est un peu difficile pour moi de vous en parler comme ça, de prendre la distance, mais... ce que je peux apporter à cette entreprise phénoménologique que j'ai voulu pour ce colloque, donc en partant de Gazelle Theory, c'est d'abord répondre à cette question : dans quelle situation se rebelle-t-on ? Donc le phénomène de la rébellion, quelles en sont les causes ? La première cause de rébellion que je vois et dont je témoigne, c'est celle de l'humiliation. Et le livre commence, enfin plus ou moins, avec une rencontre que je fais dans le désert en Tunisie, une femme qui m'accueille, et cette femme, bon, qui n'est pas dans les livres, hein, qui est loin de tout, me demande « Toi qui as fait de longues études, sais-tu comment surmonter l'humiliation ?» Et cette phrase-là me brûle. Me brûle depuis 20 ans. Donc, c'est sans doute l'humiliation qui fait qu'on se rebelle. Il y a aussi des situations d'enfermement. Donc, l'humiliation, c'est la terre, hein, c'est lorsqu'on a la face contre terre. L'enfermement, c'est physique. Donc, pour moi, les causes de rébellion, ce sont des causes en quelque sorte physiques, avant d'être des causes intellectuelles. Donc, dans Gazelle Theory, il est aussi question d'enfermement. Il y a un chapitre qui s'intitule « Glorieuse dans une maison sans musique », un autre chapitre qui s'appelle « Enfermée ». Et donc, l'enfermement, parce que c'est la mort. Mais il y a quelque chose quand même à noter, c'est que l'humiliation, l'enfermement pourrait conduire au désespoir, à l'impuissance. Et on ne se rebelle pas quand on est désespéré. On ne se rebelle pas quand on est impuissant. Donc il faut qu'il y ait de la colère. Et Virginie Despentes, c'est ce qu'elle dit tout à l'heure. Elle dit, c'est la colère, je suis en colère. La colère, de la rage, donc en quelque sorte de l'espoir. Je parlais d'animal tout à l'heure, je parlerai volontiers de la rébellion comme un instinct et lié au corps, mais aussi c'est lié à un idéal, à des idéaux et les révolutions. Donc quand la rébellion devient révolution, sans doute que l'idéal s'en mêle. Alors voilà pour la rébellion telle que je peux l'appréhender comme phénomène. Qu'en est-il de l'écrit ? C'est-à-dire quand est-ce qu'on écrit ou quand est-ce qu'on produit un écrit rebelle ? Sans doute produit-on un écrit rebelle parce que ça déborde, parce que les mots débordent, parce que le silence tue, mais peut-être aussi parce qu'on a lu des écrits rebelles et que ça a donné envie de continuer sur cette lancée-là. Et quand je parle je parle d'inspiration, là aussi je reviens à l'inspiration au sens physique. Quand j'ai lu King Kong Theory, j'ai respiré. En fait, j'ai pas réfléchi, j'ai eu une impression de... Je le dis souvent, mais c'est vrai, tout d'un coup j'avais plus d'air, en fait. Tout d'un coup, il y avait plus d'oxygène dans l'air. Donc l'inspiration, c'est peut-être au sens physique ça, quelqu'un qui vous donne plus d'espace pour mieux respirer. Je parlerai aussi volontiers d'amitié, alors pas nécessairement pour les personnes qui ont écrit, mais pour les livres. J'ai beaucoup d'amitié pour King Kong Theory, au-delà de la personne qui l'a écrit. Et je parlerai aussi volontiers, alors pas de filiation, et je crois que, ni d'héritage, je crois que ça, ça vient du patriarcat, les histoires de filiation et d'héritage. Je parlerai plus d'archipel, d'île, c'est-à-dire on reste dans nos solitudes, mais l'énergie de la rébellion, disons, circule. Alors dans mon cas, dans mon archipel, il y a Chebbi, le poète tunisien dont je vous ai parlé, il y a Nawel Sardawi et il y a Despentes. Je vais aussi me demander maintenant quel rapport j'ai eu à la langue et aux langues et quel rapport on a la rebelle ou on les écrit rebelles aux langues et aux mots. Et j'ai l'impression qu'en situation de rébellion, le rapport aux mots est très important parce que quand on est face contre terre, déjà on a du mal à respirer, on n'a pas l'énergie de faire des phrases, on ne réfléchit pas, il y a des mots. On ressasse, disons, il y a des mots qui reviennent. Alors le mot, par exemple, liberté, que sais-je. Mais on s'accroche à des mots, on n'est pas en mesure de faire des phrases. Donc les mots sont sans doute très importants quand on est juste avant la rébellion. Dans le cas de ce mot de rébellion, alors moi j'ai une incertitude sur la prononciation. Je ne sais pas si on dit rébellion, je ne sais pas si on dit rébellion. Et l'incertitude me va finalement. Je me dis que ça n'est pas que ce rapport incertain au mot et peut être créatif. Et je suis aussi incertaine quant à l'étymologie. Je ne sais pas si révolution et rébellion ont la même étymologie. Est-ce qu'il y a ce phénomène de vélarisation, pour faire un peu scientifique, ou est-ce que ce sont deux mots différents ? Donc le rapport aux mots, quand on est en situation de survie, c'est un rapport aussi d'incertitude. On n'est pas sûr du sens des mots, on n'est pas sûr de l'étymologie, on n'est pas sûr de savoir. Dans le cas du verbe « se rebeller », dont j'ai appris qu'il signifiait « repartir en guerre », le plus important pour moi, c'est le « se ». Pas tant le « rebeller », c'est le « se rebeller ». C'est le « se », donc, qui fait de ce verbe un verbe pronominal, mais aussi un verbe intransitif. D'où mon intuition que je développe ici, qu'on ne se rebelle pas forcément pour, on se rebelle. En langue arabe, le mot pour dire rébellion, c'est le mot thawra, qui désigne un taureau. Donc c'est la force débordante d'un taureau qui est incontrôlable, indomptable et qui est insensé. On ne sait pas dans quel sens il va aller. Rapport aux mots, rapport aux langues, creuser la langue, comme l'a fait sans doute Foucault, qui, je crois, est un penseur rebelle, et je pense qu'il a dû connaître des situations de grande solitude et de grand désarroi. Donc, autre chose que je fais aussi dans Gazelle Théorie, mais aussi dans d'autres domaines, c'est creuser les mots. Creuser les mots pour en saisir l'essence cachée, les rhizomes aussi. Donc c'est ce que j'ai fait avec le mot gazelle, qui au départ est un mot plutôt léger, plutôt un sobriquet. Et plus on creuse le mot gazelle, et plus on arrive alors à de la révolte, à de la rébellion, mais aussi à un substrat sémitique. On va jusqu'à la Bible, on va jusqu'à l'épopée de Gilgamesh, et on se rend compte que depuis toujours, on a comparé les femmes aux gazelles. Depuis très longtemps, les femmes se battent contre cette image et assez souvent elles l'utilisent en l'inversant. Donc j'ai essayé de faire avec la langue arabe ce que Foucault a pu faire avec d'autres termes en français, mais j'ai aussi essayé de faire penser la langue arabe comme fait Heidegger par exemple avec la langue allemande, ou Nietzsche d'ailleurs aussi avec la langue allemande, c'est-à-dire qu'en langue arabe, la langue arabe se prête assez bien à une conceptualisation à partir de l'étymologie des mots. On prend un mot, je ne sais pas quel mot prendre, mais peut-être que ça viendra dans la conversation, on prend un mot, on essaye d'en voir tous les sens, et en explorant toutes les significations d'une racine, on a une pensée. Donc dans quel objectif ai-je fait ce travail et à quoi donc peut prétendre, que peut espérer un écrit rebelle? Alors sans doute que le premier objectif est personnel, il s'agit de tourner la page, donc écrire un livre pour tourner la page sur la souffrance personnelle, tout en restant dans le collectif. Parce que tourner une page et passer à autre chose, évidemment c'est bénéfique individuellement, mais quitter le collectif, c'est parfois dommage pour le collectif et pour soi. Il s'agissait aussi pour moi de cultiver ce feu de la rébellion, parce que c'est un feu assez énergisant et que ça donne aussi un élan de vie qui a du sens et qui donne du sens. Il s'agissait aussi, je crois que c'est le cas de beaucoup d'écrits rebelles qui sont tournés vers les autres, d'une projection. On écrit sans doute pour un autre soi qu'on imagine être le lecteur, en se disant qu'on va lui faire gagner du temps, qu'on va lui épargner des souffrances, qu'on va se réparer en accompagnant d'autres dans l'entreprise de prise de conscience. Je voulais aussi dans Gazelle Théorie témoigner à la place de rebelles qui ne sont plus. Alors en particulier, je voulais donner une place à Maisie Eda, qui est une autrice libanaise du début du XXe siècle, donc née à Nazareth en 1886, qui est connue surtout comme ayant été la grande amoureuse de Gibran, auteur du Prophète, mais qui a une œuvre bien plus importante que celle de Gibran. Enfin, je ne sais pas pour les comparer, mais c'est pour dire que vraiment il y a une injustice de fait à l'encontre de Maisie Eda. On a des milliers de pages qui attendent à la BNF leur traducteur ou leur traductrice. Et Maisie Eda, entre autres, donc elle a été journaliste, poète, trilingue, elle a écrit en français, en allemand, en arabe, en italien aussi, donc quadrilingue, et journaliste. Elle a tenu un salon littéraire où se réunissaient les plus grands auteurs égyptiens au début du XXe siècle, donc où de grandes idées ont émergé. Et elle a écrit en 1926 un livre non traduit encore qui s'appelle « L'égalité ». Donc c'était aussi pour lui rendre hommage. Donc pour finir cette présentation un peu particulière, la question que je pose, c'est que reste-t-il de la colère après la colère? Que reste-t-il de la rébellion après la rébellion? Peut-on parler d'art rebelle? Je parlerai plutôt d'une rébellion qui est perçue comme de l'art, parce que selon moi, il y a une part de non-intentionnalité dans l'art rebelle. Pour revenir à la phénoménologie, et à Husserl, donc je vous cite la présentation que fait Husserl de la phénoménologie, la perception de cette table est, avant comme après, perception de cette table. Ainsi, tout état de conscience, en général, est en lui-même conscience de quelque chose, quoi qu'il en soit, de l'existence réelle de cet objet, et quelque abstention que j'en fasse dans l'attitude transcendantale qui est mienne. Pour résumer, et c'est souvent ce qu'on fait, toute conscience est conscience de quelque chose, selon Husserl. Donc il y a de l'intentionnalité. Je me demande si la rébellion, ça n'est pas prendre conscience, point. non pas prendre conscience de, mais seulement prendre conscience. Je me demande si l'écriture rebelle n'est pas fondamentalement non intentionnelle, c'est-à-dire qu'elle est tension et non pas tension vers. Je me demande si l'écrit rebelle, lui, dans sa forme sensée, figée, devient intentionnel, donc conscience de quelque chose. Et là, je voudrais finir sur une comparaison entre la rébellion et l'amour. Selon moi, la rébellion et l'amour sont deux exceptions à l'intentionnalité. L'amour, ce serait une inconscience de. Il n'y a plus que l'objet dont je suis amoureux ou amoureuse et le jeu disparaît. Alors que la rébellion serait une prise de conscience sans objet, une expérience du tout sujet. Je dis je prends conscience. La rébellion et l'amour seraient donc deux expériences de vie vivante, de vie absolue. L'art rebelle serait un art de l'attention et non pas un art de l'intention. Et pour finir en une minute, je vais finir donc sur un poème qui résume mon propos. Rébellion, se rebeller contre, se rebeller pour, se rebeller avec, se rebeller tout court, se espace. Merci.